Voilà, nous continuons notre série sur l'exploration de la Bible. Donc, on s'était arrêté à Genèse 47. Donc, verset 31, Jacob dit, « Jure-le-moi, et Joseph le lui jura. » Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Donc, Israël, Jacob, demande à Joseph de jurer qu'il va l'enterrer dans le tombeau prévu par Abraham, là où il y a eu Abraham, Isaac, et Jacob demande à ce qu'aussi il soit enterré au même endroit. Et il fait jurer Joseph, il dit, il faut que tu le fasses. Donc on avait expliqué que cela montrait l'attachement de Jacob à sa destinée divine. Donc, il était très attaché au lien divin qui le reliait à Abraham, Isaac. C'était ce qui le reliait, ce n'était pas seulement la famille, c'est le lien divin. Et c'est pourquoi il tenait à ce qu'il soit enterré là-bas, confirmant cette alliance entre Abraham, Isaac et le Dieu créateur, confirmant qu'il était, lui, la suite de cela. Il dit, il faut que je sois enterré. Et là-bas, et Joseph était d'accord. Donc, nous continuons en lisant le chapitre 48.
Genèse, chapitre 48, à partir du verset 1. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage.
Voilà, donc on peut s'arrêter là. Donc il y a ce premier élément où Jacob dit à Joseph, tes enfants que tu as eus pendant que je ne te voyais pas, au verset 5, maintenant les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Qu'est-ce que Jacob veut dire par là? Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Donc Jacob veut dire par là qu'ils seront considérés comme ses fils directs. Parce qu'après, il faut savoir que quand quelqu'un meurt, il y a des considérations d'héritage et autres. Mais nous comprenons que il y a une grande importance spirituelle dans cette affaire aussi. Donc Éphraïm et Manassé vont être inclus comme étant des chefs de tribu, alors qu'ils ne sont pas des fils de Jacob. Donc c'est ce qui s'est passé par la suite. Ce qui s'est passé, c'est qu'on ne citait plus la tribu de Joseph, mais la tribu d'Éphraïm et la tribu de Manassé. Ce qui est très important dans le sens spirituel, c'est-à-dire dans les 12 tribus, il y a la tribu d'Éphraïm et la tribu de Manassé. Donc on les appelait les demi-tribus. Mais peut-être c'est nous les humains qui appelons ça demi-tribu. Mais dans la Bible, c'est tribu, la tribu de Manassé et la tribu d'Éphraïm. Pourquoi les humains appellent ça demi-tribu? Pour que ça fasse 12 à la fin, quand on va faire le décompte, que ça fasse 12, parce que là, ça fait 13. Donc si on met deux enfants à la place de Joseph, ça fait 13. Donc c'est pourquoi les humains mettent demi-tribu. Mais Dieu a dit, Dieu considère ça comme étant la tribu de Joseph en quelque sorte. En fait, c'est ça. Donc, c'est les enfants de Joseph. Donc, c'est comme si c'était la tribu de Joseph, mais qui a une sorte, comme une double importance, puisqu'il y a Manassé et Éphraïm, qui sont considérés comme des fils de Jacob, donc ayant le même droit, il le dit bien, comme Ruben et Siméon, ce sont ses fils aînés, donc Manassé et Éphraïm sont comme ces deux-là, donc ils ont les mêmes droits, et c'est très important, ça montre l'importance que Jacob accorde à Joseph. Donc les enfants de Joseph sont considérés comme ses propres enfants en lui. Ça montre l'attachement fort qu'il y a et aussi une sorte de reconstitution de ce qui avait été perdu autrefois. Donc autrefois, Jacob avait perdu son fils Joseph. C'est comme s'il veut réparer ça en prenant ces enfants-là qui étaient nés avant qu'ils se rencontrent à nouveau. Il les considère comme ses propres fils. Donc ça a une grande importance, puisque par la suite, donc, il y a les tribus d'Éphraïm et les tribus de Manassé comptées comme les tribus d'Israël, alors que ça ne devait pas être ainsi. Voilà, nous continuons.
À mon retour de Paddan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Éphrata. Et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci ? » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir Joseph. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom, et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant, « Que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir. » Mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc.
Amen. Voilà. Donc, encore un incident dans la succession. Joseph vient présenter Manassé et Éphraïm, et Jacob choisit de mettre la main droite sur Éphraïm, le plus jeune, plutôt que Manassé. Oui.
Oui. En fait, il a pris son propre exemple aussi parce que...
J'ai pas compris.
En fait, Jacob, il a fait comme lui. Parce que quand son père à Jacob, il l'a béni lui, qui était cadet par rapport à Ésaü.
Non, il n'a pas fait comme lui parce que lui, c'était une sorte de technique qu'il avait accomplie. Il avait fait quelque chose pour en arriver là. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, c'est de lui-même qu'il met la main sur... Il n'y a pas eu de subterfuge, hein, donc c'est de lui-même qu'il pose la main sur Éphraïm. Voilà, mais bon, on peut peut-être que quelqu'un peut répondre. Est-ce qu'il a fait ça parce que c'est peut-être comme ça pour lui? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il ait fait ça pour ça. Je crois qu'il a fait ça par révélation. Et on a dit que ses yeux n'arrivaient plus à voir. Et on lui a facilité la tâche en amenant directement à sa droite Manassé et à sa gauche Éphraïm. Donc ça veut dire que il a fait, lui-même il le dit, je l'ai fait ça intentionnellement, il le dit, hein, c'est intentionnel. Donc il a vraiment obéi à ce qu'il recevait dans son cœur. Il a dû, au lieu de faire ça, il a dû faire comme ça. Donc c'est, et faire l'autre comme ça, c'est cela. Donc ça montre qu'il dit non, je le fais exprès. D'accord, Manassé est aussi, sera grand, mais Éphraïm sera plus grand. Ça nous montre la liberté de Dieu. Dieu est souverain, il élève qui il veut. Donc on ne peut pas, avec Dieu, entrer dans des considérations humaines, même si d'une certaine manière c'est Dieu qui a établi ces considérations, qu'on respecte les aînés, c'est Dieu qui a établi ça. Mais par rapport à l'appel de chacun, Dieu peut faire que l'appel de quelqu'un soit plus grand que l'appel de ses aînés. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui doit nous froisser ou nous faire créer des problèmes au milieu des enfants de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, mais toujours pour notre bien. Oui.
Je reviens, Joseph. Pourquoi, puisqu'il faisait partie des 12 fils d'Israël, pourquoi ce n'est pas Joseph qui a l'héritage et que ce sont ses fils qui prennent sa place en quelque sorte?
En quelque sorte, il est honoré, Joseph, qu'on prenne ses fils. C'est un honneur qu'on prenne ses fils. Donc, il est dans ses fils. Donc, quand on prend ses fils, au fait, c'est la tribu de Joseph.
Non, mais ça, je comprends. Mais pourquoi, en fait, ça paraît curieux que, puisque Joseph est vivant, que son père vienne donner à ses fils. C'est uniquement pour l'honorer.
Non, c'est non seulement pour honorer Joseph, mais honorer Dieu. C'est-à-dire que ce qu'il fait à Joseph, c'est un privilège, ce n'est pas une faille. C'est au contraire un privilège que ces deux enfants soient considérés comme ses propres fils. Ça veut dire que dans les 12 tribus, on va les citer. C'est un privilège. Ce n'est pas une faute ou une faille. C'est au contraire, c'est quelque chose. Il avantage Joseph en faisant cela. Donc on voit que voilà, le Seigneur, même si il nous a tous appelés, il ne nous a pas appelés à faire la même chose exactement. Et il peut faire qu'un fasse des choses beaucoup plus importantes que l'autre, selon ses choix à lui, selon ses critères, qu'on ne connaît pas à 100%. Mais lui, il connaît les cœurs, il sait ce qu'il fait. Et donc c'est ce qu'il fait avec Éphraïm et Manassé, parce que nous ne connaissons pas l'histoire d'Éphraïm et de Manassé pour dire mais c'est à cause de ceci ou c'est à cause de cela. C'est le choix de Dieu. Jacob l'affirme en disant c'est intentionnellement que je fais ça, c'est le choix de Dieu. Et moi je voudrais soulever l'esprit de vérité qui agissait en Jacob en ce moment-là, en cet instant-là, comme ça avait agi au temps d'Isaac quand il avait béni Jacob. On lui dit que ce n'était pas Ésaü. Il a regretté charnellement en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais ensuite, il a ajouté, mais c'est fait, c'est ainsi. Donc, en quelque sorte, il voulait dire par là que la volonté de Dieu s'est accomplie. Moi, j'aurais préféré que ce soit Ésaü, mais les choses ont été amenées que ce soit Jacob. La volonté de Dieu s'est accomplie. Je me soumets. Voyez, dans l'esprit de vérité, quand ces gens-là, ils vieillissent, plus ils deviennent vrais. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, plus ils vieillissent, plus ils deviennent mauvais. Jaloux, compliqués, avec une logique, ah, nous, je suis vieux, j'ai de l'expérience, plein de choses. Donc dans les milieux chrétiens, c'est plutôt les jeunes qui paraissent vrais, mais plus on vieillit, plus on devient compliqué. Souvent, je me suis demandé, mais comment des pasteurs de 78 ans peuvent devenir escrocs? Tu as 78 ans, 80 ans, c'est ce moment-là que tu trouves pour devenir mauvais. Mais là, c'est le contraire qu'on voit. Plus Jacob, Isaac, tous ces gens-là vieillissaient, plus ils devenaient vraiment vrais avec Dieu. Là, Jacob dit, je ne fais que appliquer ce qui vient dans mon cœur. Et il dit à Joseph, je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens, avec mon épée et avec mon arc. Bien aimé, donc ce n'est pas du favoritisme charnel, c'est l'élection de Dieu, c'est le choix de Dieu. Donc l'épée et l'arc de Jacob symbolisaient le pouvoir, la conquête. Il laisse ça à Joseph. Donc c'est Joseph, au fait, l'héritier principal de Jacob, c'est Joseph. En quelque sorte, Joseph est devenu comme Jacob lui-même, l'aîné. Sauf que dans son cas, à lui, on nous le dit pas. On nous le fait vivre. Parce que ce qu'il fait avec Joseph, c'est ce qu'on fait avec l'aîné. Donc Joseph a pris la place de l'aîné, mais sans qu'on nous le dise. C'est à nous de comprendre. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Et ça peut arriver, bien-aimé, que ne faisant pas ce que Dieu nous a demandé de faire comme appel, Dieu utilise quelqu'un qui prend ta place. C'est une réalité. Parce que nous, on n'a pas fait ce qu'on nous demande de faire. On a vu ça avec les apôtres. On leur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, en commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. Et ils sont restés à Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem et avaient du mal à s'extérioriser, donc aller à l'extérieur, considérer vraiment qu'un païen peut être sauvé. Qu'est-ce que Dieu fait? Il suscite Paul. Quelqu'un qu'on ne pouvait même pas penser que une telle personne qui combattait les chrétiens, c'est cette personne-là même que Dieu utilise. Parce que les gens qui avaient été appelés pour faire le boulot traînaient à le faire, avaient des scrupules à le faire. Et donc l'aîné, c'était Ruben. Il ne jouait pas, il n'a pas joué son rôle comme il faut. Ben, Dieu a mis Joseph en quelque sorte comme l'aîné. Voilà, donc ça va arriver dans les milieux chrétiens aussi. Lorsqu'on ne fait pas ce qu'on doit faire, Dieu va se trouver quelqu'un d'autre. Voilà, comme il avait dit à David, je me suis trouvé, à Saül, je me suis trouvé quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Et c'est ça que nous sommes en train de voir. Vraiment, comprenons que nous devons jouer notre rôle. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant quand Dieu donne à quelqu'un d'autre, ça crée maintenant des problèmes de jalousie, de critiques inutiles. Et finalement, ça ne fait que nous enfoncer. Alors que c'était nous qui étions appelés, c'était nous qui étions mis à part. Donc soyons vraiment attentifs à la volonté de Dieu pour l'accomplir. Chapitre 49.
Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas.
Voilà, donc on s'arrête d'abord là. Premièrement, donc là, qu'est-ce qui se passe? Jacob va s'en aller au ciel, va mourir, et il va parler, il va dire les dernières paroles à ses enfants. Et le Seigneur s'arrange toujours pour qu'on puisse écouter les dernières paroles à travers quelqu'un qui est de lui, qu'il prend. Et ça peut être même un païen, mais avant de mourir, il nous dit la chose que Dieu lui met à cœur. Parce que quand quelqu'un est en train de mourir, il n'a plus d'intérêt sur terre. Son cœur est comme transparent pour être utilisé pour dire des choses importantes sans colère, sans voilà, parti pris. Donc le Seigneur, et là de plus, Jacob, c'était son serviteur. Donc avant de s'en aller, Jacob déclare des choses aux enfants, à ses enfants. On se souvient même Saül qui était mauvais, mais lors de leur dernière rencontre avec David à distance, il a béni David. Donc Dieu va utiliser quelqu'un qui part, Dieu va les utiliser souvent pour nous, pour nous dire des choses importantes. Et là, Jacob, en plus serviteur de Dieu, Dieu se sert de lui pour dire des choses importantes. Donc il dit à Ruben, tu as perdu le droit d'aînesse parce que tu m'as manqué de respect. Tu as pris, il avait pris la concubine de Jacob, donc et Jacob dit, voilà, tu m'as manqué de respect et c'est pourquoi tu perds le droit d'aînesse. Et comprenons que c'est ça, c'est le manque de respect qui est important dans cette affaire. Ce n'est pas forcément le fait que ça soit prendre la femme de son père. Donc, quand on manque de respect à ses parents, donc on va petit à petit perdre une certaine autorité qu'on devrait avoir. On va perdre cela. C'est une réalité spirituelle. Donc, il faut faire attention à cela. Il faut avoir du respect vis-à-vis des aînés. Et là, Ruben n'a pas eu de respect vis-à-vis de son père parce que lui, il était majestueux, splendide, costaud, fort. Mais manque de maîtrise de soi. Et beaucoup, dans leur manque de maîtrise de soi, ils injurient même les aînés. Ça, c'est très, très dangereux. Donc là, il y a une conséquence, un manque de respect vis-à-vis des aînés entraîne, et surtout vis-à-vis de tes parents, de ton père. Donc ça entraîne directement une diminution spirituelle de ton autorité, une diminution spirituelle de ton appel. Parce que il y a un parent qui est au-dessus de tous les parents, c'est Dieu. Si on manque de respect à un parent, on finira par manquer de respect aux parents qu'on a au ciel. C'est comme ça. Et il lui dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Voilà. À cause de ça, tu te cru mon égal pour prendre ma concubine. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Maintenant, ça, c'est quelque chose quand même qui a eu. Il y a eu, quand il dit, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Donc ça, c'est un événement qui a eu lieu, comme l'événement qu'on reproche à Ruben, ça a eu lieu, l'événement de que Lévi et Siméon aient tué des hommes, ça a aussi eu lieu. C'était à quel moment? Oui?
C'était pas quand un étranger l'avait pris leur sœur.
Voilà, donc ils se sont vengés à l'opposé du conseil de leur père. Ils se sont vengés, ils ont tué des hommes, ils ont massacré, alors que leur père leur disait, ne faites pas ça, parce que nous sommes dans une terre étrangère, faire ça, c'est nous mettre dans des positions difficiles. Ils l'ont fait quand même, ils ont été très violents. Et le Seigneur, conséquence, c'est quoi? Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Donc, on a vu par la suite que cette prophétie s'est accomplie. Les Lévites n'avaient pas de terrain. Ils n'avaient pas leur terrain à eux en tant que tribu. La tribu de Lévi n'a pas eu de territoire. Donc, les Lévites vivaient dans les territoires des autres tribus. Donc, les gens de la tribu. Donc, ils ont été dispersés dans tout Israël. Il y a des gens aussi qui disent. Oh, maudite soit leur colère, ça s'est tombé sur Moïse parce qu'il s'est fâché dans l'histoire du rocher. Quand on lui a dit de frapper le rocher pour que l'eau sorte, Moïse, au fait, était sous la malédiction de Lévi. C'est pourquoi il a manifesté une colère. Mais je ne suis pas d'accord avec cela. Les malédictions tombent lorsqu'on n'aime pas Dieu. Voilà. Mais quand on est de Dieu, ces malédictions-là n'agissent pas, donc on connaît Exode 20. Donc c'est des gens, au fait, il y a un club de gens qui veulent toujours faire paraître les serviteurs de Dieu comme tellement comme tout le monde pour s'autoriser eux-mêmes à faire des péchés. Voilà. Non, Donc, Moïse n'était pas comme tout le monde, ni Josué, ils n'étaient pas comme tout le monde. D'ailleurs, c'est pourquoi on les appelait hommes de Dieu. C'est-à-dire, ils vivaient pour Dieu. Ils n'étaient pas comme tout le monde. Donc, quand on disait Élie, Élisée, homme de Dieu, c'est parce que dans leur vie, ils n'étaient pas comme tout le monde. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits. Voilà. Ils n'étaient pas parfaits, parce que seul Jésus a été parfait du début à la fin. Mais leur vie de tous les jours ne ressemblait pas à la vie de tout le monde. Ils étaient consacrés à Dieu. Et donc, je ne suis pas d'accord avec cette version-là, comme quoi c'est cette colère-là que Moïse s'est mise en colère, comme tout humain peut se mettre en colère lorsqu'il est exaspéré. Ça n'a rien à voir avec une sorte de colère qu'il devait avoir régulièrement. Vous savez pourquoi ? Parce que, on va lire ça puisqu'on est en train d'explorer la Bible. Mais à un moment donné, on va lire ce que Dieu lui-même dit de Moïse dans Nombre et dans Deutéronome. Il va dire de Moïse qu'il est l'homme le plus patient. Comment tu peux être patient et être un homme coléreux ? C'est contradictoire. Là, c'est Dieu lui-même qui dit que Moïse est l'homme le plus patient. Alors, nos commentateurs d'aujourd'hui vont dire non, il était sous la malédiction de la colère de Lévi. C'est faux. Donc Dieu lui-même dit que Moïse était patient. Et voilà, donc les Lévi, les gens de la tribu de Lévi ont été dispersés. Nous continuons. Judas.
Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever ? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le repos, et que les peuples lui obéissent.
Ah, jusqu'à ce que vienne, là-bas c'est écrit le repos.
Oui, le repos.
Ah, d'accord, ici c'est écrit le Shiloh. Ok.
Et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait.
Voilà. Donc Judas, on lui prophétise la royauté. Donc c'est lui qui sera le roi. Donc on comprend pourquoi le vrai roi est sorti de Judas. David, il vient de la tribu de Judas. Et Jésus lui-même, il vient de David, donc de la tribu de Judas aussi. Et donc ce que Jacob dit là, c'est accompli. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on appelle Jésus le lion de la tribu de Judas. Donc c'est lié à tout ça. Et il dit que le sceptre ne s'éloignera plus de Judas. Donc tous les rois après David, c'était des rois, c'était des gens de Judas. Après, il y a eu séparation du royaume, de deux royaumes. Mais le royaume, l'autre royaume, a fini pratiquement par disparaître. Et donc, il restait que le royaume homogène, le royaume de Juda, auquel s'était associée la tribu de Benjamin. Donc, on voit comment, quand Dieu parle, ça s'accomplit. Quoi. Voilà. Nous continuons, Zabulon.
Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse.
Verset 18.
J'espère à ton secours, ô Éternel.
Ah, j'espère en ton secours, ô Éternel. Jacob, qui est Israël, par rapport à Dan, il demande le secours de Dieu. Donc, Jacob est en train de dire que Dan, ça sera un ennemi pour son peuple. Puisqu'il dit, j'espère à ton secours, ô Éternel. Et c'est pourquoi nos aînés, beaucoup ont considéré que l'Antichrist viendra par Dan. Voilà, donc ça sera un juif, mais ça sera par Dan. Et d'Apocalypse, quand on cite les tribus d'Israël, on ne cite pas la tribu de Dan. Donc tout ça fait partie des éléments qui amène les gens à considérer que l'Antichrist passera par Dan. Donc quand on dit Dan jugera son peuple, c'est dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il va faire du mal à son peuple en le déclarant fautif. Ce n'est pas dans le sens du vrai juge honnête. C'est dans le sens jugé, dans le sens condamné. Il va condamner le peuple. Et le Seigneur, et Jacob dit dans verset 18, « J'espère en ton secours, ô Éternel. » Donc c'est pourquoi nos prédécesseurs ont conclu que Dan, c'est la tribu de Dan qui va produire l'Antichrist. Mais en tout cas, là, la description est négative. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours éternel. On dit aussi qu'il jugera son peuple. Voilà. Donc, c'est. Et l'Apocalypse, on ne cite pas la tribu de Dan. Nous continuons.
Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera.
Voilà, on continue.
C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des cieux, des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur les sommets de la tête du prince de ses frères.
Amen. Voilà. Quand on lit la prophétie sur Joseph, comment on peut voir son accomplissement? Tout ce qu'on dit là sur Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Oui. Près d'une source, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur main. Son arc est demeuré ferme. Oui.
Par la venue de Jésus.
Voilà, donc Joseph, en quelque sorte, c'est Jésus. Donc on est là, on nous dit que quand on consulte l'histoire d'Israël et tout le reste, on se rend compte que l'accomplissement ne peut se trouver qu'en Jésus. Un tel accomplissement où on dit c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des anticollines. Donc, Jacob est en train de dire que le Père, je ne sais pas maintenant, de quel Père il parle là, quand il dit les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Donc ça veut dire là, il parle de Dieu. Donc Joseph est pris vraiment comme celui qui est le Messie, de qui viennent toutes bénédictions, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Donc il est le chef de ses frères. Donc c'est pourquoi les Juifs avaient deux pistes pour attendre le Messie. Soit fils de Joseph, soit fils de David. Donc pendant des siècles, c'était les deux pistes, fils de David ou fils de Joseph, à cause de cette prophétie-là, qui montre clairement que c'est Joseph qui est le Messie, qui va venir. Mais en même temps, Judas, on lui promet la royauté, mais de l'autre côté, c'est comme si Joseph, c'est le spirituel, c'est la royauté éternelle, et Judas, c'est la royauté terrestre. Voilà. Donc, Jésus est roi, fils de Judas sur la terre, mais éternellement, il est fils de Joseph. Donc, il est descendant de Joseph les bénédictions là, c'est dit qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet du prince de ses frères. Où est-ce que c'est dit éternel? Voilà. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des antiques collines. Ici, c'était que des antiques collines. Là-bas, c'est dit quoi?
Des collines éternelles.
Des collines éternelles. Donc, c'est, Joseph s'est lié à l'éternité et Judas s'est lié à la royauté sur terre. Donc, mais on parle du même personnage qui viendra par les deux parce que, comme on dit de Judas, que jusqu'à ce que vienne le Shiloh, donc le Messie, donc c'est Judas qui est le roi, c'est pourquoi Jésus est venu par là. Et là, Joseph, c'est, on peut considérer que c'est, il est pris comme le Messie, et on peut aussi dire finalement que toutes les bénédictions d'Israël, ça repose sur Joseph. Voilà, puisque de toute façon, les bénédictions d'Israël reposent sur le Messie. Toutes les bénédictions d'Israël reposent sur Joseph. Et beaucoup pensent que, mais oui, mais on ne parle plus trop de Joseph après, c'est vrai. Mais Éphraïm, le fils de Joseph, dans la suite des temps, on ne dira plus, on n'appellera plus Israël. Israël, comme il va y avoir deux royaumes. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Mais avec le temps, on ne dira plus Israël, on dira Éphraïm. Donc on voit bien que Joseph a pris la place d'Israël. Donc c'est vraiment lui qui a pris la succession. Dans le langage des Juifs, ils appelaient maintenant le royaume de 10 tribus, ils appelaient ça Éphraïm au lieu de dire Israël. Donc ça, on verra ça dans la lecture, dans la suite. Mais c'est pour comprendre l'importance de Joseph et de l'autre côté, il y avait la tribu de Juda qui continuait aussi à exister avec à côté la tribu de Benjamin. Verset 27.
Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin.
Voilà. Benjamin, par la suite, s'est révélé être la tribu la plus guerrière. Donc quand il y avait la guerre, c'était la tribu de Benjamin qui allait en avant. C'était la tribu la plus combative, la plus guerrière. Donc c'est ce que Jacob est en train de dire. C'est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Donc Benjamin, c'était la tribu des guerriers qui aimaient la guerre. Et on se rend compte de la liberté de Dieu et de sa souveraineté dans sa logique. Lorsqu'on voit que le royaume de Juda a été associé au royaume de Benjamin, ça n'est pas Benjamin ne s'est pas associé à Joseph, donc Éphraïm et Manassé, mais il s'est associé plutôt à Juda, quoi. Voilà. Dans la suite des temps, on voit que le Seigneur répartit comme il veut, et là, il est dit que Benjamin est un loup qui déchire. Voilà, la tribu de guerre. Nous continuons.
Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Hétien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit. Il expira et fut recueilli auprès de son peuple.
Amen. Voilà, donc Jacob finit par mourir tranquillement, après une vie compliquée. Voilà, c'est ça la bonté et la puissance de Dieu. À un moment, il nous donne la paix. Jacob a eu vraiment une vie compliquée à tous les niveaux, mais il finit par connaître 17 ans de paix, de tranquillité, et sa mort est paisible. Il parle de Dieu, il parle des choses de Dieu, il peut s'en aller. Le Seigneur tient à ce qu'on ait une mort paisible, il s'en occupe. Donc il faut vraiment qu'on soit tranquille. Oui.
C'est juste une petite question. C'est au niveau de ce que vous avez expliqué sur Joseph par rapport à la spiritualité. Est-ce que on peut, dans le Nouveau Testament, lorsque l'ange a apparu à Marie et que l'ange a dit à Marie que Jésus va régner pour l'éternité sur le trône de David, est-ce qu'on peut faire un lien avec par rapport à la position que vous avez donnée, la position de Judas et la position de Joseph dans la spiritualité? Puis, lorsque l'ange dit à Marie que Jésus va régner pour l'éternité sur le trône de David, est-ce qu'il y a des liens qui peuvent sortir de là?
Non, le lien, c'est que ce Jésus-là qui règne sur le trône de David, c'est en fait Joseph lui-même, quoi. Voilà, donc c'est en tant que descendant de Joseph, il règne définitivement sur... Il est éternel, mais... Pour les humains à qui on parle, c'est sur le trône de David. Donc Joseph représente le côté spirituel, alors que le trône de David, il est terrestre. Mais comme celui qui règne est éternel, c'est éternel. Voilà, ça continuera. Ce nom-là, nous continuerons avec ce nom-là à jamais, quoi. Oui ?
Oui, Pasteur. Il y a un truc que je ne comprends pas. Israël, il parle de bénédiction, mais en même temps, il maudit deux ou trois de ses enfants.
Oui, c'est des bénédictions parce que c'est des choses qu'on te dit, ça peut t'aider à t'améliorer ou à faire le contraire. C'est des paroles qu'on te dit. Si tu sens que ce n'est pas des paroles bonnes, tu peux faire changer les choses. Parce que Dieu est un Dieu de bonté. Il veut changer le mal en bien.
D'accord.
Voilà. C'est des bénédictions quand même.
D'accord. Et je ne comprends pas le lien entre... Enfin, c'est pas que je ne comprends pas, mais comment se fait-il que Joseph soit le descendant... Enfin, que Jésus soit le descendant de Joseph alors qu'il vient de la tribu de David?
Non, j'ai dit que Jésus a un héritage spirituel par rapport à Joseph. Alors que par rapport à David, c'est physique. Voilà. Par rapport à David, c'est physique. Mais par rapport à Joseph, c'est spirituel. Donc le caractère de Joseph... Et je me souviens même dans les autres études qu'on avait faites, on avait expliqué que Joseph est peut-être le seul, avec peut-être Melchisédek et Jésus, de qui on ne cite aucun péché. Tous les autres... On nous montre leurs failles. Mais vous allez lire du début à la fin, il n'y a pas de faille de Joseph. Donc c'est vraiment Jésus est son héritier spirituel tout en étant descendant de David physiquement, même si tout ça est lié finalement. Mais voilà. Oui.
En fait, c'était pour rebondir à ce qui vient d'être dit avant. Par rapport qu'on peut nous dire des choses mauvaises, mais dans le but qu'on s'améliore et tout. Et ma question, c'est quand c'est une prophétie, c'est inévitable, ça peut pas être changé.
Ah non, si, ça peut être changé, sinon on se rétracte. Sinon, on change, ça change. Donc, si on se repent, si on dit on ne veut pas vivre ça, on se repent, on revient à Dieu, ça change.
Bah, du coup, qu'est-ce qui fait qu'une prophétie... ça reste une prophétie. Si ça peut te changer, c'est que c'est plus...
Les prophéties qui ne dépendent pas de l'homme, par exemple, on dit qu'il y aura des tremblements de terre, ça s'accomplira. Mais les prophéties liées à la destinée de l'homme, l'homme y joue un rôle. S'il se repent et revient à Dieu, Dieu peut lui changer son avenir. Oui?
Je reviens à Dan, donc il est dit une vipère sur le sentier, donc il y avait 12 tribus d'Israël et dans une des 12, Dan, donc il est dit de lui qu'il est une vipère sur le sentier. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec dans les 12 apôtres Judas?
Vas-y, oui. Est-ce qu'on peut faire le parallèle?
Judas qui a été en fait le traître, choisi par Jésus, donc il faisait quand même partie de la, de l'environnement comme Dan.
On peut, oui, on peut prendre ça comme ça, on peut faire ce parallèle-là. Oui, oui. Oui.
Du coup, la question que je voudrais poser, c'est au travers des 12 apôtres, est-ce qu'on a aussi cette. Cette division, enfin pas cette division, mais autant il y a eu les 12 tribus, est-ce que les 12 apôtres, est-ce qu'il y a aussi un lien avec les apôtres? Et la deuxième question, non, d'abord la première.
Le lien, c'est que c'est déjà le chiffre 12. Et donc l'autre lien, c'est que les apôtres sont comme des chefs de l'Église. Donc c'est pourquoi dans Apocalypse, on voit 24 vieillards, donc 12 tribus, 12 apôtres. Donc je crois que c'est lié, mais pas forcément les caractères de chacun, mais c'est lié.
La deuxième question, c'est par rapport à Israël. Parce que Israël, sur sa couche, avant de mourir, il a quand même prononcé des bénédictions et des malédictions. Dans ce que...
Mais dans la Bible, on appelle tout ça bénédiction.
D'accord. Voilà. Il a quand même prononcé des sentences.
Oui, on t'avertit de quelque chose. Mais tu peux changer ça en tant que, puisque Dieu est miséricordieux.
Oui, mais dans le cadre justement de Ruben, par exemple, ça s'est réellement accompli. On voit que dans tout ce qui s'est...
La prééminence.
La prééminence, entre autres.
Mais ça ne veut pas dire que tu es rejeté. Parce qu'il faut quand même savoir qu'ils sont cités quand même comme 12 tribus. Hein. C'est déjà important, ça. Hein. Oui.
Mais est-ce que ça veut dire aussi que la parole du Père... est quand même importante parce que Dieu quand même il a établi un ordre, donc s'il a mis le Père en premier, ça veut dire, est-ce que la parole du Père a aussi une importance?
Mais oui, c'est ce que ça veut dire, donc c'est important, mais sauf que si on se repent, on revient à la vérité, on s'humilie, cette parole peut changer. Mais c'est d'ailleurs pourquoi Dieu tient à ce que les aînés nous disent de bonnes paroles. Il tient à ça. Même si Saül n'était plus dans la vérité, Saül a dit de bonnes paroles à David. Parce que c'était l'aîné. L'aîné, s'il te dit de mauvaises choses, ça va s'accomplir dans ta vie. Ce sont des réalités spirituelles. Maintenant, si tu t'humilies devant Dieu et devant ces aînés-là, ça peut être pardonné et effacé.
Donc malgré tout, que l'on soit chrétien, juif ou peu importe, dès l'instant que l'aîné a parlé, dès l'instant où il a dit quelque chose, il y a une application.
Il y a une puissance spirituelle.
Il y a une puissance. Ah, voilà, c'est ça. D'accord, voilà. Merci.
Okay. Oui, oui. Oui, mais tu prends.
Oui, tout à l'heure, vous avez parlé des 24 vieillards. Du coup, ça m'a fait penser à quelque chose, à une question. Je voulais savoir qui les premiers êtres vivants de la Bible.
Les premiers êtres vivants.
Oui.
Je n'ai pas compris. Les premiers êtres vivants.
Oui, de la Bible.
Par rapport aux anges, à nous, aux dieux.
Bah, je ne sais pas. Il y a beaucoup de chansons chrétiennes où on parle des premiers êtres vivants. Donc, j'ai jamais su.
Ah oui, les quatre êtres vivants. Oui. Pardon. Ok.
Les quatre êtres vivants. Voilà.
Ah ben, je ne sais pas.
Vous savez pas?
Oui, je ne sais pas. C'est qui les quatre vivants?
Bah, mais pourquoi on les chante alors si, enfin, je veux dire, si...
Puisque c'est dans la Bible. D'accord. Ah, ça ne passe toujours pas. Mais je ne sais pas c'est quoi les quatre êtres vivants. Donc ça doit être des anges surnaturels, mais je ne sais pas. Bon, demander à Dieu, je n'ose même pas demander, j'en ai pas besoin. J'ai déjà Jésus, ça me suffit. Voilà. Ok. Je vais revoir lorsque... Voilà, donc finalement, Jacob va dans la paix et insiste pour qu'il rappelle encore, il faut qu'on l'enterre dans le même endroit qu'Abraham, Isaac et Isaac. Et leurs femmes, donc c'est ce qu'il exige. Nous continuons, chapitre 50.
Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant « Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. » Pharaon répondit « Monte et enterre ton père, comme il te l'a fait jurer. » Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'aire d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'aire d'Atad, et ils dirent « Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens !» C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mitzraïm à cette aire qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté d'Éphron, le Héthien, comme propriété sépulcrale, et qui est vis-à-vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père.
Voilà, donc l'histoire de Jacob se clôture là avec cet enterrement fastueux, oui.
Pasteur, j'avais une question. Il y en a qui font des deuils de 40 jours et qui font retraite deuil 40 jours après. Est-ce que c'est en lien avec ce qui s'est passé pour Israël, enfin pour Jacob?
Mais là, ce n'est pas 40 jours.
Si, à un moment, 40 jours de deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison.
Attends, on va compter les jours. Donc,
verset 4.
Verset 4.
Quand
40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours.
D'accord. Mais du coup, l'histoire des 40 jours, les gens font les deuils et après retraite deuil après 40 jours, ça n'a rien à voir avec ça?
Ah non, mais parce que là, on vient de lire là. 70 jours, ils pleurèrent. Maintenant, quand ils arrivent au verset 11.
Ça fait 7 jours, oui.
Oui, c'est quel verset? 10, voilà, Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Ça augmente, hein. Les Égyptiens pleurent 70, 40 jours d'embaumement, 7 jours. Donc, il n'y a pas de règle à en tirer. Donc là, dans ce cas, ils doivent faire 117.
Mais d'où vient l'histoire des 40 jours et des retraites?
Je ne sais pas. Donc, il faut demander aux gens qui font ça. Mais en tout cas, nous, on n'est plus appelé à faire ce genre de trucs parce que pour nous, nous allons au ciel quand nous mourrons. Nous sautons de joie si on en a la force. Si on n'a pas la force, on pleure, mais on ne va pas faire des 40 jours de... Non, non, c'est... Où les gens vont s'habiller en noir.
Oui, voilà, l'histoire, c'était ma deuxième question. Vraiment... Le noir vient d'où, en fait, le fait que...
Non, c'est les gens qui ont fait de la mort un culte. Donc là, les gens n'avaient pas l'espérance comme nous, la révélation plutôt comme nous, de la résurrection. Nous avons la révélation de la résurrection. Pour nous, la mort est un passage pour aller au ciel. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin de tout. C'est un passage pour aller au ciel. Donc, tant que les gens sont vivants, c'est là que nous devons souffrir pour leur apporter la parole. Nous habiller en noir, c'est ça, souffrir pour leur apporter la parole. Mais le jour où ils sont morts, c'est fini. C'est fini. OK. Voilà, donc ça se termine là. Et le verset 11 m'interpelle, c'est que les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mitzrayim à cette ère qui est au-delà du Jourdain. Mitzrayim, ça veut dire Égypte. Donc, quand on lit la Bible, surtout l'Ancien Testament, ce n'est pas un roman. Les gens parlent des faits comme nous, on parlerait de ce qu'on a vécu hier. C'est là que les gens qui prétendent que Jacob n'a pas existé, en fait, c'est ça la théorie de ces païens-là, de ces athées, c'est que Abraham, Isaac, Jacob, c'est la même personne, mais qui a pris des noms différents selon les régions. Donc, c'est ça leur théorie. Donc, quand ils prétendent de telles choses, alors quand on lit, ces gens-là parlent de ça naturellement. Ce n'est pas comme des philosophies, des doctrines, des réflexions compliquées. Ils parlent naturellement. Ils disent, d'ailleurs, même les gens qui étaient témoins, ils ont confondu ça à un deuil d'Égyptiens, parce qu'il y avait beaucoup d'Égyptiens. Et je crois qu'eux-mêmes, en habitant l'Égypte, ils s'habillaient un peu comme les Égyptiens. Donc, les gens ont confondu ça à un deuil d'Égyptiens. Les gens ont vu tout ça. Donc, ils racontent ça tranquillement. Il n'y a pas de mystification. Et d'ailleurs, quand on va arriver surtout à l'histoire que j'aime, l'histoire des filles de Tselophade, mais ces gens-là racontent les événements, ils racontent les choses naturellement. Naturellement, il n'y a pas de, complications. Donc aujourd'hui que les gens disent que c'est inventé, c'était Abraham, Isaac, Jacob, c'était la même personne en fonction de l'endroit, c'est vraiment de la mauvaise foi, de la méchanceté. C'est des histoires que les gens ont vécues, ils racontent ça tranquillement. Voilà, donc Jacob est enterré. Nous lisons la suite à partir du verset 15.
Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. » Pardonne maintenant les péchés des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur.
Amen. Donc ça nous rappelle le Seigneur, près d'arriver à la croix, il dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà, donc quelque part, ces gens-là, dans leur méchanceté, ont contribué à ce que Jésus soit crucifié, que nous soyons sauvés. Parce que nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus. C'est ça qui nous donne le salut. Et là, Joseph dit la même chose. Vous avez médité le mal, mais Dieu a transformé ça en bien. Le Seigneur est tout puissant pour transformer le mal en bien. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Un vrai chrétien ne peut pas s'asseoir sur le mal. Ce n'est pas normal. Donc on voit Joseph, il ne s'est pas assis dessus. Il a cherché la sortie. La sortie pour lui, c'était quoi ? C'est que Dieu a utilisé la méchanceté de ses frères pour l'amener, lui, à sauver beaucoup de gens et à se sauver lui-même aussi. Donc voilà ce que devrait être le comportement d'un chrétien. Quand il y a un mal qui tombe, une mauvaise nouvelle, quelque chose se passe, il doit toujours chercher qu'est-ce que Dieu veut lui apporter au lieu de s'asseoir sur les erreurs des autres. Non, on doit toujours chercher qu'est-ce que Dieu veut m'apporter dans ça. Souvent, c'est nous qui sommes visés par Dieu. Nous avons des bénédictions à recevoir à travers les coups durs ou bien le mal qu'on peut subir. Mais on ne prend pas ce temps-là de ressembler à des gens comme Joseph, de ressembler à des gens comme Jacob dans leur perfection. Voilà. Les choses de Dieu sont devenues des théories au lieu que ce soit la vie même. C'est devenu des théories. Nous devons entrer dans la vie des enfants de Dieu. Ça, c'est la vie. Donc, il dit non. Je n'ai même pas de problème. Donc, Joseph n'a même pas eu à dire, je vous pardonne. Parce qu'il a considéré ça comme l'action divine. Vous voyez, c'est à ce niveau-là, quoi. C'est à ce niveau-là. Il n'a même pas besoin de dire « je vous pardonne » parce que d'emblée, il avait pris, quand il a compris tout, quand il a été élevé en Égypte, il a compris « ah, donc, ces gens-là ont été utilisés pour que moi je sois premier ministre. » À partir de là, il a considéré que c'était l'action divine. Il a pardonné sans problème, oui.
Oui, dernièrement, tu as parlé de toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Là, Joseph, par rapport à ce que ses frères ont fait, il est devenu premier ministre. Maintenant, nous, concrètement, dans la vie chrétienne, c'est quoi? Quelqu'un de... voilà, un païen, quelqu'un de la famille va me manquer du respect ou va me chercher toujours des problèmes. C'est pourquoi travailler la patience.
Parce qu'il t'élève spirituellement. Donc, quand tu réponds avec le sourire, spirituellement, tu es élevé.
D'accord. Et voilà.
En quoi est-ce que ça va agir? Quand tu vas décréter quelque chose, tu vas dire à un démon de sortir de quelqu'un, va sortir vite. Donc, ton autorité a augmenté par ton obéissance à Dieu.
D'accord. Donc, la personne agit pour travailler en moi, en fait.
Pour que Dieu travaille en nous.
Pour que Dieu travaille.
Dieu permet qu'on nous fasse du mal. Et quand nous, on obéit à Dieu, c'est ce que notre frère Paul explique. On est là dans l'exploration de la Bible. Dans 2 Corinthiens 10, 3 à 6. On va lire ça. 2 Corinthiens 10, 3 à 6. C'est ce qui explique que beaucoup de gens n'ont pas d'autorité. On dit, chasse, je te chasse de ma famille, il est toujours là. Mais parce que pourquoi? Parce que toi-même, tu n'obéis pas. C'est tout. Mais si au boulot, on te fait une injustice, tu dis, ah, je vais faire comme Jacob. On l'a exploité. Il s'est laissé exploiter. Mais à la fin, les brebis sont revenus à lui. Je me laisse exploiter. J'ai travaillé 5 heures, on ne m'a pas payé. Je me laisse exploiter. Voilà. Pratiquons, c'est les théories là, tout qu'on groupe les bénéficiaires qui aiment Dieu. Non, on est fatigué des chants. Maintenant, c'est la pratique, oui.
2 Corinthiens 6,
10,
10 3, 3, à 6. 10, 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète.
Amen. Donc Paul explique que nous avons des armes puissantes. Elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. C'est-à-dire quand quelqu'un te manque de respect, alors qu'il est petit en âge, alors que voilà, il le fait injustement, vraiment c'est méchant, et que toi tu réponds comme le Seigneur, il ne sait pas ce qu'il fait. Toi, tu réponds... Tu te mets à la place, tu te réponds comme Joseph, alors qu'on lui fait l'injustice par la femme de Potiphar. Il s'en va en prison, considérant que c'est la volonté de Dieu. Ben, ton autorité augmente. C'est ça qui fait que Joseph devient premier ministre, tout simplement. Parce qu'il n'a jamais discuté. On le jette dans le trou. On l'amène esclave. Il n'a jamais discuté. C'est pourquoi, spirituellement, on l'élève. Spirituellement, c'est ce qui est arrivé à David. Vous vous souvenez, non, David, quand Shimei est en train de le injurier, de le jeter de la poussière, qu'est-ce que David dit? Laissez-le, ne le tuez pas. Ça va me rendre triste, je veux pleurer, et Dieu va avoir pitié de moi et va me redonner la royauté. C'est ce qui s'est passé. Donc, quand Shimei fait ça et que lui ne répond pas, spirituellement, il est élevé. Et c'est ainsi qu'il revient roi, il redevient roi. C'est cela. Et donc, les chrétiens perdent beaucoup de temps à réagir charnellement et spirituellement, ils ne sont pas élevés. C'est ça le problème. Donc, nous avons bloqué notre élévation. Je ne parle pas d'élévation dont parlent ces faux serviteurs-là, des titres ou des exploits. Non, l'élévation où tu as l'autorité spirituelle. Voilà. Et c'est bloqué à cause de ça. Oui.
Tu as dit que Joseph, il a compris seulement... quand il est devenu Premier ministre, c'est là qu'il a compris là où Dieu voulait l'emmener?
Non, je dis que quand il a vu ça, il s'est rendu compte que finalement, je ne dis pas que c'est seulement en ce moment-là, mais quand il voit qu'il est Premier ministre et qu'il sauve les gens, il dit, mais je me rends compte finalement, c'est pour ça que Dieu m'a amené. Mais on ne dit pas ses réactions d'avant. On n'en parle pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. De Joseph, on ne cite aucun mal. Aucun. Oui.
Il y a une chose, c'est que Joseph, quand tout ça lui est arrivé, c'était encore un enfant, c'était un jeune homme. Donc il n'avait pas conscience de tout ça. Il n'était pas au courant que, même s'il avait eu des songes, mais il n'était en fin de compte qu'un enfant. Au jour d'aujourd'hui, nous, quand on se regarde, nous sommes des adultes. Donc on a un autre cursus, une autre histoire. Donc quand on prend des coups, c'est quand même aujourd'hui, pour nous, ça reste quand même...
Pour nous libérer de notre histoire, il faut qu'on prenne des coups. C'est pour nous libérer de cette histoire-là qui est inutile. La vraie histoire, c'est celle avec Jésus-Christ. Et donc, Dieu va permettre qu'on prenne des coups pour nous libérer de notre histoire. Tu es là, tu as un collaborateur qui a 20 ans d'écart avec toi. Eh bien, pour te libérer de cette histoire, de ton histoire, d'être l'aîné, d'être vieux, eh bien, le Seigneur va utiliser ces jeunes-là afin que tu te dises, non, je suis plus jeune que lui. Quand tu arrives à ce niveau-là, Dieu dit, ah bon, il a compris. Et spirituellement, tu es élevé. Quand tu arrives à considérer que toi qui as 20 ans de plus que ce garçon-là, en réalité, tu es plus jeune que lui, tu arrives à t'humilier jusqu'à ce niveau-là. Mais la Bible dit, celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Mais quand on est là toujours à réclamer, à revendiquer, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, Jacob n'a pas revendiqué. On lui a dit, allez, 7 années de plus pour Rachel. Bon, il s'est laissé exploiter. Allez, les moutons, va élever mes moutons. Il est parti. On va faire une technique pour séparer. Le monsieur choisit la technique qui l'avantage. Jacob cède. Mais finalement, tout est retourné à Jacob. Tous les moutons sont revenus à Jacob. Il est devenu plus riche que Laban de loin. Et depuis ce jour-là, quand on a fait l'étude sur Jacob, j'ai dit vraiment, à partir de maintenant, si on m'exploite, j'accepte. Je sais que tout va revenir à moi un jour ou l'autre. C'est tout.
Mais alors, qu'est-ce qui nous bloque, nous, à accepter le dépouillement, le fait d'accepter d'être malmené? Qu'est-ce qui nous bloque, nous, en tant que chrétiens, d'accepter
ça? Parce qu'on est soi-même. On doit accepter de mourir. Donc, on doit dire, je n'existe plus, c'est Christ qui doit vivre en moi. C'est ça.
Mais c'est le travail de toute une vie, ça.
Non, non d'aujourd'hui déjà. Donc, c'est le travail de maintenant déjà. Voilà. Aujourd'hui même, tu prends la décision. Quand on est dans ça, eh bien, le Seigneur agit. Et c'est important. Jacob a récupéré tout. Il a tout récupéré. Et donc, Joseph a vraiment mis ses frères à l'aise. Il a parlé à leur cœur. Il les a mis à l'aise. Et on a vu Jésus, malgré le reniement de Pierre, il a mis Pierre à l'aise. Voilà. Il a mis Pierre à l'aise. C'est très important. Il a dit à Pierre, voilà, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture, il t'amènera où tu ne voudras pas. Il a fait encore des promesses à Pierre, malgré le fait qu'il a renié, il a mis à l'aise. Donc c'est... nous devons... Regardez à ce qui construit et non à ce qui détruit. Quelle attitude je dois prendre? Je dois toujours prendre l'attitude qui plus tard va construire et non pas qui va détruire. Donc Joseph a regardé à l'héritage de Jacob. Il a dit ça, c'est mes frères, c'est les 12. Donc notre intérêt, c'est qu'on soit unis. Allez, il n'y a aucun problème. Je veux vous entretenir. Il n'y a pas de problème. Il dit, je ne suis pas à la place de Dieu. Donc nous, pour répondre aussi à ce que tu as posé comme question, Didier, donc c'est que parfois on se met à la place de Dieu. C'est pourquoi on se fâche comme si on était Dieu. Allez, on se fâche contre les autres. Mais si on se mettait à notre place, on ne se fâcherait plus. Parce qu'on dit, mais je ne suis pas Dieu. Donc je ne me fâche plus. Et arrêtons de dire, ah mais non, mais la colère, c'est vrai ce qu'on dit là, la colère. Ça vient, mais après, ce qui n'est pas bon, c'est de se coucher avec ou bien de durer avec. Non, il faut qu'on arrive au stade que la colère ne vienne même plus. Voilà. Donc, quand on te fait le mal, tu souris par la puissance de Dieu. Entre-temps, tu es comme tu es à l'intérieur. C'est comme si tu as bu quelque chose d'amer, mais voilà, comme font dans la diplomatie, la politique, tu souris quand même. Parce que en parallèle, il y a la grâce divine qui agit en toi. Mais c'est parce qu'on se permet même de se fâcher que tout cela arrive. Il faut même qu'on se permette même plus de se fâcher. Voilà. Qu'on ne dise pas, ah oui, mais c'est normal, après je me suis calmé. Non, 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 non. Plus question de se fâcher. Il y a un silence de total ici. Là. Voilà, oui. Si un enfant, prends le micro.
Si un enfant nous parle mal, on est obligé de s'énerver, de se fâcher.
Mais non, on peut hausser le ton sans se fâcher. Non, on hausse le ton, on dit fortement à l'enfant, mais on ne se fâche pas. Objectif, je ne me fâche plus. Comme Joseph, c'est ça. Mais il y a vraiment un grand silence, comme pour m'empêcher de continuer, je veux continuer. Oui, oui, vas-y.
Oui, pasteur, mais ça ne se décrète pas. Je veux dire, la colère, quand elle vient, en gros, elle vient, parfois on est surpris par cette colère-là.
Oui, mais nous on est trop surpris. C'est que quelque part, on n'a pas vraiment décidé. On est régulièrement surpris, ce n'est pas normal. Moi, depuis qu'on avait fait l'étude biblique sur l'exploitation, au boulot, je fais tout comme voilà, le serviteur de tout le monde. On a besoin de tout là-bas, je vais. Ah, voilà, c'est fini les histoires qu'on me fait même de. Je souris. C'est parce que dans la tête, on s'est dit, non, quelque part, la colère, c'est comme la peur, ça vient, après on gère. Non, donc il faut même qu'on dise, il n'y a plus. Donc, ce qu'on me fait de mal, c'est pour mon bien. C'est ça. À partir de là, donc j'ai constaté qu'il y avait un retard dans la réaction. Donc quand on me fait quelque chose de mal, c'est comme si je réagis en différé. Et le différé, là, permet de rester calme. Voilà. Ah, c'est vrai, c'est l'histoire de Jacob. Et je me calme définitivement. Oui.
Pasteur, il y a ce qu'on appelle une colère saine. C'est-à-dire comme ce qui s'est passé avec Jésus au temple.
Je savais que ça allait sortir, mais vas-y. Oui.
Ce qui s'est passé avec Jésus au temple.
On a dit qu'il était fâché.
Non, il s'est mis en colère parce que quelqu'un faisait quelque chose qui...
On va réunir, c'est mieux. Hein. Jean 2. Voilà, je te laisse lire, hein, Jean 2, à partir du verset 13, qu'on cherche là où il y a la colère. Là. La Pâque des Juifs était proche, je vais lire alors, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Voilà. J'attends, je n'ai pas vu le mot colère là. Vas-y, Nélisha, qu'est-ce que tu dis? Tu as trouvé dans ta Bible le mot colère. Hein? Ah. Est-ce que c'est... Qui a été traduit par qui?
Non, en fait, tu veux
est-ce que c'est l'acte, le fait de renverser la table, etc., qui a été traduit par une notion de colère?
Bon, en tout cas, dans l'évangile de Jean, on ne parle pas de colère. Non. Peut-être que quelqu'un a un autre évangile où on parle de colère.
J'ai pas dit qu'on parle, j'ai dit est-ce que c'est l'acte qui fait ça?
Mais, traduit parce, par qui?
Non, parce que quelqu'un qui vient, il renverse, il fouette les gens, c'est qu'il doit être quand même en colère.
On écoute le Dina, peut-être il a le verset où on parle de colère de Jésus.
Pas du tout. Voilà. En fait, moi, je voulais juste dire que la colère, c'est un sentiment naturel. Comment on peut lutter en tant que chrétien avec tout ce qu'on a comme armes et tout, mais je ne vois pas une personne qui est face à une situation qui va dire bah, « je souris d'abord et puis...
» Mais non, moi, je vais te dire, manger, c'est naturel, non?
Oui.
Mais est-ce qu'on arrive dans une boulangerie, on commence à manger?
Non, pasteur, mais non, après, ce n'est pas comparable. Face à une situation compliquée...
Non, ce n'est pas parce que c'est naturel qu'on doit y être soumis.
Je sais, mais est-ce que ça veut dire que... Moi, ça me dépasse.
Amen, afin que Jésus lui-même agisse. Donc, ça nous dépasse, Mais Jésus est tout puissant pour nous donner. Moi, ça ne me dépasse pas parce que je me dis, si Joseph ne s'est pas fâché, pourquoi moi, du Nouveau Testament, je vais être inférieur à Joseph? Je refuse ça.
Non, mais d'accord, mais non, je te retourne la question à toi personnellement. Tu te fâches jamais?
Non, je dis que depuis l'histoire de Jacob, qu'on a lu au boulot, je ne me fâche plus.
Après, moi, je dis contrôlé par le Saint-Esprit.
Ça peut arriver.
Ah ben, oh c'est
non.
déjà.
Mais moi, je dis, mais non, mais je ne veux plus que ça arrive.
Oui, mais c'est une lutte. C'est une lutte, donc c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Mais je ne vois pas quelqu'un.
Mais qu'est-ce qui vous gêne de décider plus de colère?
Non, mais
ça
après.
Ça vous gêne pourquoi?
Qu'on demande pardon.
Parce que moi, j'ai décidé ça au boulot, je ne me fâche plus.
J'ai dû
je me laisse exploiter. Depuis. Voilà. Dernièrement, je devais partir en Suisse. J'ai vu que la mangue devenait mûre. J'ai dit, ah, est-ce que je mets ça dans mon sac? J'ai dit, non, je laisse à ma famille. Quand même, j'arrive là-bas en Suisse, on m'avait préparé une mangue déjà. J'ai dit, ah ben voilà. Donc, quand on lâche, Dieu nous prépare autre chose. Et le lendemain, il y avait une deuxième mangue encore. Donc là, ici, j'en avais qu'une seule, là-bas, deux. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il faut apprendre à lâcher. Objectif, pas de colère. Il ne faut pas se dire, mais il y a eu la colère, mais je n'ai pas fait de mauvaises choses. Non, on ne veut même pas ça, oui.
Oui, pasteur, c'est bien beau de se retenir, mais ce n'est pas facile à gérer aussi. Surtout au travail.
C'est Dieu qui fait. Non, mais...
Oui, mais on sait tous que le monde du métier, ce n'est pas évident. Les patrons, les gens qui sont supérieurs à soi.
Gaël, si on te dit, à chaque fois qu'on te fait une injustice au travail, ton compte est crédité de 20 000 euros. Ah. Est-ce que tu vas te fâcher le jour où tu as fait une injustice au travail?
Oui, mais pasteur, on va pas...
Non, je t'ai posé une question. Si on te dit, à chaque fois qu'on te fait une injustice au travail, ton compte est crédité de 20 000 euros. Est-ce que tu vas te fâcher quand il y aura une injustice?
Ça arrivera jamais.
Non, je te pose, tu ne me réponds pas. Voilà. Quelqu'un d'autre, je vais poser la question à quelqu'un d'autre. Donc, si on te dit, à chaque fois qu'on te fait une injustice, ton compte est crédité de 20 000 euros, est-ce que tu vas te fâcher? Qui va se fâcher là? Non, on va dire, une injustice encore, 20 000 euros. Une injustice encore, 20 000 euros. Voilà ce que Joseph et Jésus nous apprennent. À chaque fois qu'il y a une injustice, c'est crédité dans le spirituel. C'est tout! On sera les hommes les plus heureux au monde. Parce que les injustices sont transformées en cadeaux. Amen. Les plaintes, là, on est fatigués, bien-aimés. Laissez-nous dormir en paix, au nom de Jésus. Oui.
Oui, pasteur, moi je voulais savoir, je reviens par rapport au travail, on peut dire stop sans se fâcher?
Jacob n'a pas dit stop, il a laissé faire.
Non, mais on peut dire stop pour ne pas que la personne abuse sans se fâcher.
Moi c'est ça que je t'ai dit, non? Jacob n'a pas dit stop. Il s'est laissé faire.
Donc, si on te dit, tu restes tous les soirs jusqu'à 20h, tu dis
va
oui.
Essuyer les tasses que tu as laissées là-bas. Mais ce n'est pas moi, mais tu vas essuyer quand même. Même si ce n'est pas toi. Tu dis pas, non, ce n'est pas moi. Hein. Non, tu vas essuyer.
Ah. Mais je ne vois pas où est le mal de dire à la personne, stop.
Puisqu'on veut imiter Jacob.
Ah, d'accord.
Voilà. Oui.
Mais où s'arrête la limite de ce stop-là? Parce que...
Moi, je n'ai pas parlé de stop. Il faut demander à Nélisha. Moi, j'ai dit, on imite Jacob.
Non, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui peuvent en abuser. Mais cet abus...
C'est bien.
Non, mais justement, mais cet abus peut devenir une forme d'autorité sur nous.
Non,
donc,
non. Quand la Bible nous montre que pendant que Laban abusait sur Jacob, les moutons-là, finalement, à la fin, c'est devenu à Jacob. La Bible nous montre que pendant qu'on abusait sur Joseph, finalement, c'est lui qui est devenu le roi de tout le monde. C'est ce que je suis en train de dire là. Maintenant, Dieu ne considérera pas comme un péché qu'on dise stop. Hein. Ce n'est pas un péché, mais il nous laisse le choix. Voulons-nous l'élévation spirituelle ou rester normal? C'est un choix à faire dans la vie. Est-ce que tu veux l'élévation spirituelle? Je ne parle pas d'élévation des titres ou bien on te considère. Non, l'élévation où l'autorité spirituelle grandit, les promesses bibliques s'accomplissent. comme de l'eau qui coule pour toi. C'est ça l'élévation spirituelle. Les promesses bibliques pour toi s'accomplissent. La vie est pour toi agréable. Ou alors, tu veux rester comme tous les humains, dire non à celui qui te fait du mal, stop à celui qui exagère. Voilà. Maintenant, on a des rôles. Par exemple, on est des parents, on a des rôles. On peut dire stop parce qu'on a une responsabilité de gérer la personne. On peut surveiller des enfants dans une crèche, dire à un enfant qui veut se brûler, stop. Là, il n'y a pas de souci. Mais par rapport à des injustices que nous, on subirait, c'est là où nous devons imiter Jacob et Joseph pour comprendre qu'à chaque fois qu'on nous fait faire, on nous fait nous subir des injustices, c'est notre élévation spirituelle qui est construite. Mais on a le choix de dire stop. Ça ne serait pas un péché, mais on reste sur place. Voilà, oui.
Mais là, par exemple, quand on voit des fois dans des assemblées où le pasteur peut être dans le faux, donc il entraîne pratiquement tous ses brebis dans le faux, mais à quel moment les brebis doivent dire stop? Parce que là, on voit des fois dans des trucs où les gens mangent des herbes.
Mais stop, ce n'est pas par rapport... Moi, je suis en train de parler de l'injustice qu'on subirait. Mais si quelqu'un est en train de dire des faussetés, on lui dit c'est faux. Ça, il n'y a pas de problème. J'ai dit par rapport à une injustice qu'on subirait, une exploitation, voilà, un mauvais traitement, la Bible nous montre par Joseph, Jacob, David, qu'il faut laisser faire. Jésus le dit, on te donne une gifle, tu donnes l'autre. Voilà. Oui.
Là, c'est dans le cas d'une injustice, mais parfois je ne sais pas si c'est de la colère ou je ne sais pas vraiment exactement ce que c'est, mais parfois c'est, les gens, il n'y a pas d'injustice, je ne sais pas comment expliquer, il n'y a pas d'injustice contre nous, mais il y a quand même quelque chose, quoi. Ce n'est pas forcément mal, mais je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Je ne peux pas comprendre, puisque toi-même, il faut que toi-même
parfois,
tu comprennes.
Parfois, il y a des gens, ils ne nous veulent pas du mal. Mais ils peuvent quand même nous faire mal.
Raison de plus pour qu'on se laisse faire.
Non, mais ce n'est pas ça, bien sûr, qu'on veut se laisser faire. Maintenant, est-ce que ça a une incidence? Est-ce que c'est dans la continuité? Est-ce que ça veut dire quelque chose que du fait qu'on se mette tout le temps, parfois dans des réflexions, à toujours vouloir se justifier, à toujours, même pour quelque chose de bien, pas pour quelque chose de bien, mais quand quelqu'un veut nous reprendre, parfois on a toujours ce sentiment de vouloir un peu justifier le pourquoi on a agi comme ça, les choses comme ça. Est-ce que ça fait aussi partie de ça?
Non, si on est dans un souci de connaître la vérité, on va dire la vérité par rapport aux choses. Mais quand on subit les injustices, on doit dire, c'est Dieu lui-même qui va s'en occuper. C'est ce que le Seigneur nous dit.
Donc, à la limite, quand on subit une injustice, on peut se taire.
Notre compte spirituel est crédité.
Voilà, mais quand on ne subit pas d'injustice, mais que quelqu'un nous reprend et que ce n'est pas une injustice vraiment, mais bon, voilà.
Et que nous, on répond toujours par l'humilité, notre compte spirituel est crédité.
Et crédité quand même. Okay.
Voilà, toujours. Donc, il faut... objectif, je ne me fâche plus. Voilà. Comme Joseph, comme Jésus. C'est ça l'objectif de ce soir. Je ne me fâche plus. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Parce qu'à chaque fois qu'on me fait une injustice, à chaque fois qu'on me fait subir un mauvais traitement, mon compte spirituel est crédité quand moi je réponds avec le sourire ou avec le silence et l'humilité. Voilà. À chaque fois que je le fais, spirituellement, je suis élevé. C'est ainsi que, voilà, on a lu de Corinthiens 10, 3 à 6, j'ai oublié de clôturer. Le verset 6 dit quoi? Nous sommes prêts à punir toute désobéissance si votre obéissance devient parfaite. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Il veut dire que eux, les apôtres, ont une autorité de Dieu. Mais si les chrétiens qu'ils gèrent, qu'ils encadrent, n'obéissent pas à Dieu, cette autorité des apôtres aussi diminue vis-à-vis des forces qui sont dans l'univers, des forces qui sont sur la terre. Donc, plus le peuple de Dieu est obéissant à la parole de Dieu, aux instructions du Seigneur, plus les gens qui ont autorité, leur autorité aussi augmente. C'est ainsi que, quand on voit dans Actes des Apôtres, chapitre 2 et 4, des miracles se faisaient d'une manière extraordinaire parce que les chrétiens étaient dans une unité, obéissance à Dieu forte. Et c'est ce qui fait que rien ne résistait face à eux. Rien ne résistait. Parce qu'il y avait cette obéissance. C'est ce que l'apôtre Paul explique. Donc si nous-mêmes nous cédons, nous obéissons aux instructions du Seigneur qui a dit qu'on te gifle, tu donnes l'autre gifle, nous verrons que notre autorité va augmenter. Et les choses ne nous résisteront plus. Si on a un projet, on passera toujours parce que notre autorité a augmenté, parce que nous-mêmes, on a appris à laisser Dieu faire. Comme Jacob, comme Joseph, des gens de l'Ancien Testament qui n'avaient pas connu clairement le Seigneur alors que nous, nous le connaissons. L'homme parfait qui s'est laissé crucifier à la croix sans contester. Voilà. Donc nous clôturons avec cela. Et on était en Exode, non, de Genèse. Voilà, donc on va clôturer 22 à 26.
Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes os loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte.
Amen. Voilà, donc on va commenter ça la fois prochaine, mais bon, juste pour dire que Joseph a connu une vie agréable après son élévation en Égypte, une vie sans problème, alors qu'il a eu environ 20 ans de souffrance, éloigné de ses parents, un temps en prison, un temps en tant qu'esclave, des moments où il a failli être tué, mais ayant toujours laissé Dieu faire, s'étant toujours gardé dans l'humilité et l'amour, il a connu de longues années dans la paix et dans la joie. Et nous, nous refusons de souffrir un peu pour connaître des longues années en paix. Nous voulons nous battre chaque jour et nous nous battons, ça continue, nous nous battons. Il n'y a pas vraiment de temps long de paix parce que nous nous battons tous les jours au lieu de faire comme Joseph, de laisser faire. Les gens nous font du mal, on laisse faire. Ils nous font des injustices, on laisse faire. On laisse que Dieu lui-même agisse parce qu'il est tout puissant. Voilà, que le Seigneur soit béni, nous allons prier. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous apprennent à imiter nos aînés Jacob et Joseph qui n'ont pas voulu se battre au moment où il fallait se battre, mais qui ont compris que tu pilotais tout, tu étais le Dieu Tout-Puissant. Ils sont restés calmes et ils ont vu ta gloire, ils ont vu ta puissance. Aide-nous, Seigneur, à prendre au sérieux le respect des gens qui sont plus âgés que nous parce que leurs paroles ont une autorité, Seigneur, spirituelle. Aide-nous à nous humilier face aux aînés. Aide-nous, Seigneur, à considérer réellement, pas comme une théorie, mais comme une réalité que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc même les choses injustes envers nous concourent à notre bien. Lorsque nous, nous répondons à tout cela par le bien, par l'amour, par l'humilité, nous avons en échange une élévation spirituelle. Aide-nous à comprendre ces choses-là. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen.